Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu. C'est l'émission de la coordination des groupes anarchistes. À tout de suite. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous.
Hein. Bonsoir.
Voilà, cette bonsoir. Idée noire qui reprend donc son activité pour une dizaine de mois. Après ces longues vacances, on vous souhaite un bonsoir à tous et à toutes. Et on va commencer, comme à l'habitude, avec quelques annonces. Pour vous parler donc de ce vendredi 11 septembre à Vaux-en-Velin, se passera une activité, on va dire, 40 guitares pour Victor Jara. En hommage au chanteur populaire chilien assassiné par Pinochet. Hein. La soirée commencera à 18h et ça se passera au Centre culturel communal Charlie Chaplin de Vaux-en-Velin. Et on va vous en dire un peu plus sur ce sujet.
Ouais, donc parce que du coup on y sera présent via une table de presse de la Plume Noire, de la librairie, et aussi par rapport au programme. Donc l'association 40 guitares pour Victor Jara, ça fait quelques fois qu'on travaille avec eux, on va dire. On avait fait quelque chose à la Plume Noire il n'y a pas si longtemps que ça, avant les vacances d'été, et donc là ils nous ont proposé très gentiment de participer à leur deuxième édition des 40 guitares pour Victor Jara. Et donc on sera présent. Il y aura une table de presse et par rapport au programme un peu de la soirée, il y aura énormément d'artistes, hein, je crois qu'il y en a un peu plus de 80 en
80,
tout,
ouais.
Enfin, 80 en tout, donc il n'y a pas 80 spectacle, on va dire, entre guillemets. Mais il y aura notamment, donc, oui, les 40 guitares pour Victor Jara.
Donc, 40 guitares
en même temps, du coup, avec des poèmes de Victor Jara. Il y aura aussi la chorale des chansons papier, hein, qui était venue à la Plume Noire également l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à passer. Le PAF, c'est 5€. Assez honnête, on va dire, vu le programme qu'il y a. Et donc, n'hésitez pas à passer. Et puis, nous, on continuera, de toute façon, à travailler avec cette assoce-là, plus tard dans l'année avec la Plume, parce qu'il y a des idées de projection, parce que, là, il y a beaucoup de choses qui se passent, parce que du coup, c'est aussi commémoration du coup d'État au Chili, les 42 ans du coup d'État. Et donc, du coup, l'association veut continuer à bosser là-dessus, sur la commémoration, mais aussi, du coup, sur ce qui se passe en ce moment au Chili. Donc, on aura très prochainement une projection à la Plume sur la situation sociale au Chili. Donc, on vous tiendra au courant de tout ça.
Ils attendent combien de personnes en
voilà. Bah, c'est une bonne grosse salle. Donc, il avait fait dans une salle plus petite l'année dernière. Donc, là, ils attendent encore plus de monde. Et vu le programme, à mon avis, bah, il y a moyen que ça marche plutôt bien.
300, 400 personnes.
Voilà, le PAF est pas excessivement cher. Il n'y a pas de prix libre, mais bon, ils ont quand même mis le prix assez bas pour un truc, dans une salle voilà municipale. Donc voilà, on espère qu'il y aura plein de monde. C'est pas très difficile pour y aller, hein. Vous allez sur le site de la salle Charlie Chaplin là, puis il y a tout indiqué, soit par tram, soit par bus. Enfin voilà, c'est assez aisé pour y aller. Voilà, puis on peut faire du covoit pour rentrer pour ceux qui le souhaitent, et c'est ce vendredi à partir de 18h.
Voilà. On va passer au samedi 12 septembre avec une proposition de Tiens bon la pente. C'est un repas de quartier, hein, c'est traditionnel. Ça se passera place Colbert, hein, je l'ai dit, donc de 11h30 à 16h. Donc c'est un repas partagé, hein, pour rappeler simplement le fonctionnement de cette activité. Donc chacun et chacune amène quelque chose à mettre sur la table et un petit peu de matos aussi. Cette année, c'est demandé avec des assiettes, fourchettes, gobelets, etc. Ou bien sûr que ses doigts. Alors signalons que la zone de gratuité sera effective aussi. On donne en échange, on donne où on échange 100 euros avec des heureux et des heureuses.
Oh, joli.
Donc ce samedi également, après donc la sieste qui suivra donc le repas de quartier, eh bien c'est une proposition d'un cinéma en plein air par l'association Grand Ensemble et quelques autres associations d'ailleurs qui s'y joignent, qui nous et qui vous propose une projection Cette guerre et nous, donc c'est le titre de ce film de Béatrice Dubel, et c'est à 20h30 Esplanade de
21h du coup il y a une petite modification de dernière minute.
Ah.
La projection est à 21h.
21h, voilà. Donc Esplanade de la Montée de la Grande Côte à Lyon dans le premier arrondissement. Et la projection sera suivie d'une discussion précisément avec la réalisatrice Béatrice Dubel.
Ouais, voilà. Et voilà, juste pour, on en parlera tout à l'heure du coup après la première pause musicale, mais il y aura aussi un rassemblement ce samedi à 17h place Bellecour, voilà, en soutien, en solidarité avec tous les migrants, les migrantes et réfugiés. Donc on en reparle tout à l'heure parce qu'on fera un petit sujet sur là-dessus. Et deux, trois petits trucs encore avant de passer au premier sujet. Comme tous les lundis aussi, 18h30, 21h à la Lutine, c'est 91 rue Montesquieu, il y a une permanence juridique de soutien aux sans-papiers. Et puis on vous rappelle dès maintenant, mais on le refera à la fin de l'émission, nos permanences à la Plume Noire, donc le mercredi 17h-19h, le samedi 15h-19h. Si vous souhaitez être tenu au courant de ce qui se passe à la Plume Noire, il y a une liste publique CGA qui existe, vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous tombez directement dessus, vous rentrez votre mail, vous vous abonnez, vous recevez un mail pour confirmer tout ça. Et voilà, puis on vous parlera tout à l'heure aussi de notre site, notre Facebook, etc., etc. Donc voilà pour les annonces. On fera un tout petit rappel en fin d'émission là-dessus. Et on va donc lancer le premier sujet. Donc une camarade qui va intervenir sur le biofracking.
Biofracking.
Que vous avez avec l'anglais.
Yeah.
Du coup voilà, qui était en Allemagne cet été sur un petit festival, c'est ça, un petit camp qui est organisé.
Un camp Antifa.
Antifa, et donc centré sur cette question-là, parce que dans ce village-là, peut-être imposé, voilà, notamment le biofracking. Elle va nous expliquer ce que c'est et tout ça. Il y aura aussi un petit moment. Petite interview, je crois que c'est ça, voilà, qu'elle a enregistré, qu'on nous passera après qu'elle expliquait tout ça.
Bon, voilà, bonsoir. Alors moi, j'aimerais bien vous parler ce soir du biofracking, ou aussi en français la fracturation hydraulique biologique. Bon, qu'est-ce que c'est ? Je pense que la plupart des gens, elles connaissent le fracking entre guillemets normal, principalement en raison des luttes contre l'extraction du gaz de schiste en France, qui était une lutte quand même assez puissante et assez importante. Et malgré que les ripostes, bon, voilà, massives des populations qui ont été directement concernées ont mené en France, mais aussi dans d'autres pays en Europe comme en Allemagne, à un abandon des tentatives d'extraire le gaz de schiste, parce que effectivement il y a eu un rapport de force qui a pu empêcher ça. Ben voilà, les multinationales et les élites politiques sortent maintenant une nouvelle idée qui est la fracturation hydrologique, attention, biologique, qui est aussi appelée parfois le biomort ou le biofracking, c'est la même chose. Et ben qu'est-ce que c'est ? Bon, je me suis demandé la même chose et c'est pour ça qu'on est allé parler avec un membre du collectif contre la piraterie de ressources dans la Lausitz en Allemagne de l'Est. C'est une région entre Dresde et Wrocław. Et ce collectif se mobilise principalement contre le premier sondage exploratoire du biofracking qui va se dérouler à Deschka, dans la Lausitz. Et voilà, je vous ai ramené un petit entretien que j'aimerais bien partager avec vous.
On va écouter ça.
Ce sondage est une première étape pour savoir si dans cette région, alors on parle de 183 km² en Allemagne et en plus de quelques centaines de km² en Pologne, s'il y a dans cette région une exploitation industrielle de cuivre rentable. On sait déjà qu'ici la quantité de cuivre dans le sol est relativement faible, mais ils étudient une nouvelle technique qui s'appelle le biomort. Et à l'aide de ces techniques, biomort ou biofracking, ils veulent d'abord traiter le sol à l'aide de la fracturation hydraulique, pour ensuite le traiter avec un lessivage biochimique pour que le cuivre ou d'autres métaux puissent être extraits. C'est une technique totalement nouvelle qui permet d'exploiter le cuivre, même dans des régions avec une densité de métaux faible dans le sol, comme par exemple ici le cuivre. Mais le biofracking est bien sûr une procédure qui entraîne en tout cas un danger imminent pour les sols, un danger de contamination de la nappe phréatique et de l'eau potable. C'est-à-dire le biofracking aura sans doute des conséquences lourdes pour la nature, surtout pour l'eau. Et malgré le fait qu'on ne nous ait jamais informés, il s'est formé une lutte de résistance. Il s'est traduit dans un premier temps par des banderoles et une communication assez conséquente. Et comme on n'a pas eu d'informations sur ce projet de la part des acteurs institutionnels, on a tout recherché de nous-mêmes, pour ensuite informer tous les gens qui ne savaient rien des problèmes ici. Et surtout, on a rendu clair que nous, ici, dans le Lausitz, nous n'accepterons pas un sondage exploratoire pour le biomort et le biofracking. Et ensuite, il faut dire que c'est vrai que la Lausitz est ici relativement peu peuplée, mais marquée par le tourisme. Et du côté des politiciens, on est parti de l'idée qu'il ne faut pas s'attendre à beaucoup de résistance de la part des populations locales, surtout aussi parce qu'aucune information a été donnée antérieurement. Mais heureusement, ils ont eu tort. Parce que notre résistance va rester et nous, on fera tout pour empêcher que la Lausitz serve de laboratoire pour n'importe quelle nouvelle technique ou procédure biotechnique.
Ah bah voilà, alors je pense qu'on a un peu mieux compris. Alors moi personnellement je trouve ça quand même un peu compliqué, alors j'ai cherché quelques infos en plus. Alors comme la dame elle nous a dit, c'est une procédure, alors le biofracking est une procédure qui est un concept alternatif d'extraction des matières premières. Et comme le nom il est dit, c'est une combinaison entre la fracturation hydrologique classique et le in situ bioleaching. Et bon, je rappelle un peu, c'est le fracking, il consiste à injecter sous très haute pression un fluide qui est destiné à fissurer la roche pour extraire en fait la matière souhaitée, c'est-à-dire ça peut être le gaz ou le cuivre ou quelque chose d'autre, en sachant que les chimicaux qui sont utilisés sont mortellement dangereux et entraînent des dégradations environnementaux et géologiques massives. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent le in situ bioleaching, qui est un lessivage souterrain d'un strat de roche à l'aide des bactéries qui sont pour le coup génétiquement modifiées et en très haute quantité. Bon, ce qu'on peut dire que, voilà, à part le nom, il n'y a pas grand chose qui est biologique, c'est-à-dire, bon, on prend le fracking, on rajoute les OGM, et ça vend pas de rêve. Et effectivement, c'est une procédure qui est totalement nouvelle et actuellement, on dispose d'aucune connaissance sur les effets secondaires et c'est pour cette raison qui a été initié un premier essai pratique qui se déroule, voilà, à DHK dans la Lausitz. Et les sondages qu'ils veulent passer sont censés les donner les connaissances préalables pour ensuite l'implanter dans l'ensemble des pays européens, c'est-à-dire aussi en France, en Italie, en Angleterre. Et en présentant le biofracking en démarcation du fracking classique, qui a fait, comme j'ai déjà dit, objet d'une lutte éco-sociale assez conséquente, les acteurs économiques, ben voilà, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils cherchent à contourner les ripostes et les protestations. En disant, ben écoutez, les gars et les meufs, c'est bio, c'est bien, c'est responsable, etc. Et pour ce sondage aussi, ça c'est assez intéressant, l'Union européenne a créé un programme avec le nom magnifique European Innovation Partnership on Raw Materials, ce qui veut dire le partenariat européen d'innovation sur des matériaux rares, qui prévoit, après la fin de ces essais sur le terrain, une mise en œuvre, voilà, comme je dis, dans l'ensemble des pays européens. Et ils commencent même à vendre les droits d'exploitation. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ils prévoient une mise en place sans avoir les premiers résultats de leur essai? Bon, on peut dire que c'est un foutage de gueule assez énorme. Et aussi, quand on cherche un peu dans la législation européenne, et dans la législation nationale, par exemple en France, où le gaz de schiste est interdit depuis 2011 par la loi, on se rend compte qu'il n'y a pas de réglementation prévue pour le biofracking, différemment au fracking qui est utilisé pour le gaz de schiste, ce qui veut dire qu'ils peuvent implanter le biofracking dans un vide juridique total. Autrement dit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils ont, alors, vous voyez, c'est assez important en dehors aussi de l'Allemagne et de cette petite région vraiment perdue. Et effectivement, bon, ils ont choisi la Lausitz, bon, pourquoi? Parce que c'est une région qui est assez peu peuplée et dans une situation économique précaire, c'est-à-dire il y a une absence d'acteurs institutionnels, ou pas institutionnels, politiques ou et associatifs qui pourraient mettre en place une lutte. Et les risques auxquels sont exposés les habitants, entre autres, voilà, un grand nombre d'agriculteurs et des personnes qui vivent du tourisme, sont ignorés et présentés comme ça sans alternative. Et effectivement, la stratégie de l'Union européenne de déplacer ces premiers essais des techniques qui sont nouvelles et super controversées dans des régions, on pourrait dire, périphériques, permet de contourner voilà, les protestes larges et de faire passer les tests de manière inaperçue afin de mettre, voilà, de mettre tout le monde devant un fait accompli. Et effectivement, c'est pour ça que c'est assez important. Alors, pour les gens qui veulent se tenir un peu au courant, cette initiative a une page Facebook qui est uniquement en allemand, mais aussi, ils ont dit qu'ils vont mettre en place un site internet anglais aussi. Pour le moment, ça n'a pas encore eu lieu, mais je pense qu'on va vous tenir au courant à Radio Canut. Voilà.
Voilà. On mettra l'adresse de la page sur le blog de l'émission et on mettra l'interview aussi en lien. Enfin, de toute façon, vous pourrez écouter l'émission, mais on la mettra en plus en lien à côté s'il faut, pour vous, si vous voulez sélectionner que ça. On a dit quoi, qu'on faisait une petite pause musicale, ça, maintenant?
Petite pause musicale. Voilà. Ouais, mais on l'a pas faite tout à l'heure, donc.
Un petit traditionnel, ouais.
Hein. Ça sera la seule d'ailleurs, hein, parce que.
Sûrement, on a beaucoup de choses à dire sur ça, la rentrée.
Chargé, ouais.
On est à bloc. Donc, La Canaille, ni Dieu ni maître.
Les dents quand je pense comme c'est percutant. On perd du temps, espère du vent. On se positionne à tort alors que la vérité crève l'écran. Mais dig dong, à la question d'où vient-on, je réponds big bang. Évolution, tous des frères de King Kong. Quiconque prétendrait le contraire serait fou. Tous des mammifères, mon frère doté de raison, c'est tout. Ni Dieu ni maître. Je vois pas en quoi prier l'Immaculé pourrait apporter à part nous faire reculer. Nous basculer dans je ne sais quoi, se mettre à fabuler, ne plus miser sur soi mais croire en Dieu et l'aduler. Les derniers seront les premiers, c'est comme ça qu'ils nous font danser. Quand vous serez morts, je vous jure, vous serez récompensés. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on en sait? Rien qui peut compenser le fait qu'il faut toujours croire sans voir et s'en contenter. Donc, en condensé, restons sensés. Pas question d'encenser l'insensé, non, non. En condensé, restons sensés. Il n'est pas question d'encenser l'insensé. Ni Dieu ni maître. Dans la soie, nous, c'est les dettes en fin de mois, la diète en fin de droit, et ils se permettent de juger nos actes, mais enfin quoi? Qui sont d'abord ces vieux cons, dealers d'opinion, pour nous faire la leçon, dire ce qui est bon Dieu de leurs millions? Une puissance politique qui se place à ses pions, aux visées prolifiques, leur dire, je m'entorche le fion, qu'ils aillent tous faire maître, ni Dieu ni maître, mon père né au berceau, je veux plus de paroi à ma fenêtre, j'ai dit qu'ils aillent tous faire maître, ni Dieu ni maître, mon père né au berceau, je veux plus de paroi à ma fenêtre, ni Dieu ni
bonsoir.
Ah,
en même temps, ouais. Ouais, c'est pas grave. Je le fais ce coup-ci, tu l'as fait deux fois.
Allez.
Donc vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission animée par les militants militantes de la coordination des groupes anarchistes. On va enchaîner, donc deuxième partie, ce sera sûrement la seule pause musicale parce que c'est déjà 20 et on a plein de choses à vous dire. Enfin, ça se trouve, on va avoir fini à moins 10 et on sera quand même comme des cons.
On fera du beatbox.
Voilà, ouais. On fera des petits sons. Juste, comme c'est le début de l'année, ben, on va refaire un petit peu une présentation de comment fonctionne le groupe de Lyon de la coordination des groupes anarchistes. On a un fonctionnement un peu particulier, enfin un peu particulier, un peu spécifique on va dire, parce qu'on fonctionne par front de lutte, voilà, on a décidé pour pas s'éparpiller un peu sur plein de sujets différents, de se concentrer sur 3 ou 4 axes et de militer à fond les ballons toute l'année là-dessus. Donc on fonctionne sous forme de commission, donc il y a un premier front de lutte, c'est le front de lutte syndical, un deuxième le front de lutte anti-patriarcat, un front de lutte antiraciste et on a une commission aussi jeunesse. Et donc dans chacune de ces commissions, bah, elles sont pas réservées uniquement en fait aux adhérents ou aux adhérentes de la CGA, elles sont ouvertes aux sympathisants et sympathisantes, à savoir que vous n'êtes pas obligé donc d'adhérer à notre organisation pour participer à ces commissions. Il suffit quand même d'être un petit peu d'accord quand même avec ce qu'on dit, hein. Faut pas non plus débarquer. Alors l'exemple qui est fait dans le document de présentation, c'est que genre si vous êtes syndicaliste, ça vous intéresse vraiment, mais que vous êtes anti-féministe, bah ça passe pas, on est désolé quoi. Et la même chose, l'exemple contraire, si vous êtes féministe, vous êtes intéressé par la commission anti-patriarcat, mais vous êtes anti-syndicaliste.
Ou raciste.
Voilà, ou raciste, parce que du coup, si on fait le mélange de tout, ou anti-jeune, du coup, voilà.
Anti-jeune.
Voilà. Du coup, ça passe pas non plus. Donc voilà, on a, sur le site internet, on a un petit peu nos principes et fonctionnements. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez aussi passer à la plus noire lors des permes. On peut en discuter tranquillement. Voilà, le but, voilà, c'est pas être en totale opposition, forcément, avec ce qu'on pense et ce qu'on dit. Mais vous êtes pas, du coup, d'être obligé d'accord sur vraiment tout. Voilà, faut pas être en désaccord sur un des sujets total, on va dire. Un désaccord total. Mais du coup, ça vous permet de participer à une commission, de vous intégrer petit à petit, de voir comment on fonctionne. Et puis après, voilà, ça, si ça jamais ça vous plaît, plutôt que de venir à une réunion des fois que ça peut être un peu lourd ou voilà, vous n'êtes pas au courant de tous les sujets, là vous êtes centré sur une commission pour en essayer plusieurs et au bout du compte voilà, si ça vous intéresse la manière dont on fonctionne, la manière dont on lutte, dont on s'organise, et ben après vous pourrez demander un peu plus tard du coup votre adhésion.
Mais vous n'êtes pas obligé.
Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez continuer à avoir des sympathisants qui sont là depuis un an ou deux. Voilà, ça leur permet de eux de lutter d'une certaine manière. Et après, voilà, on vous met pas le couteau sous la gorge. Vous inquiétez pas pour adhérer ou pour même être sympathisant. Voilà, c'est juste bien sûr si vous venez, vous voyez tout ça. Donc on vous enverra sûrement. On a une liste publique d'activités. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois. Mais du coup, on va envoyer bientôt un descriptif vraiment complet de comment on fonctionne. Là, je vous ai fait vraiment le petit version courte. Et du coup, voilà, si vous êtes intéressé, il faudra pas hésiter à nous envoyer un mail. On a un mail aussi, c'est magique. C'est groupe-lyon@c-g-a.org. Et donc là, vous dites, je suis intéressé par la commission, j'aimerais bien savoir quand elle se réunit. Et on vous envoie tout ça, vous venez, puis après, on en discute tranquillement. Donc voilà, par rapport à la présentation du groupe de Lyon, mais c'est vraiment très rapide et très succinct. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas donc à passer soit en permanence, soit envoyer un petit mail, contacter via la page Facebook ou je ne sais quoi d'autre encore,
Twitter,
on vous répondra.
Facebook,
voilà. Tout... Vous inquiétez pas, on sera là pour vous répondre. Donc voilà pour ce petite page, enfin petite. Je trouve pas mes mots, c'est pas grave.
Introduction.
Ouais, sur la présentation du fonctionnement du groupe de Lyon de la CGA. On va passer maintenant au premier sujet. Vous êtes sûrement tous et toutes au courant. On ne parle que de ça en ce moment, donc du coup c'est par rapport à. Aux migrants, migrantes et aux réfugiés, voilà, vous savez tous qu'il y a plein de monde du coup qui frappe à la porte de l'Europe pour diverses raisons, soit parce qu'ils fuient la guerre, soit parce qu'ils fuient la répression, la misère, la famine, tout ce que vous voulez, ou juste parce qu'ils veulent s'installer en Europe. Et comme vous l'avez vu un peu de partout, bah il y a pas mal de pays européens qui ferment ses frontières, qui les empêchent de venir. Il y a des drames humains. Voilà, il y en a eu une photo qui a fait un peu le tour du monde et qui a un peu réveillé les consciences, mais tout en sachant que bah, des gamins morts, il y en a un peu malheureusement toutes les semaines et tous les mois depuis quelques années. C'est pas le seul, ce sera pas le dernier, et maintenant il va falloir se bouger pour essayer un petit peu de changer les choses. La première des choses à faire, bah, c'est de montrer qu'on est solidaire avec tous ces migrants et migrantes et réfugiés. Il y a eu un premier rassemblement ce dimanche à 17h. 30, je crois que c'était ça, voilà. Donc c'était vraiment à la base d'appels individuels, voilà, un peu lancé sur les réseaux sociaux et sur les réseaux associatifs. Ça a plutôt pas mal marché. Il y avait 400 personnes pour un premier rassemblement. Il y en avait un. Voilà, 48 heures avant. Donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que les gens, bah oui, se réveillent un peu, mais maintenant, va pas falloir s'arrêter à ça. Bien évidemment, il va falloir enchaîner. Il y a plein de choses à mettre en place. Il y a dès aujourd'hui un deuxième rassemblement qui est posé, samedi à 17h, place Bellecour. Alors avec deux appels différents, un appel des associations, si je m'appelle bien, CIMAD, Forum Réfugiés, Secours Catholique, Urgence Migrants, voilà, sur un appel qui pour nous, bah, existe, et donc c'est très bien, mais très est assez minimaliste politiquement. Voilà, ça reste de l'humanitaire, on va dire entre guillemets. Nous, on aimerait bien que ça aille un peu plus loin, parce qu'il y a d'autres problématiques à mettre en place et à s'interroger surtout sur les causes de cette migration et des responsabilités surtout des États occidentaux, mais ça on en parlera un peu plus tard. Et il y a donc un deuxième appel qui fait suite à une réunion qui s'est déroulée hier soir avec une unitaire qui commence à se mettre en place, et donc avec un autre appel du coup je l'ai pas sous les yeux malheureusement, je l'ai sur mon ordinateur, mais si il est là je vous le lis vite fait. Donc c'est Refugees Welcome, réfugiés vous êtes les bienvenus, et ça sera une phrase qu'il faudra absolument répéter de partout encore et encore. Je vous lis rapidement tout ça. Le corps d'un enfant de 3 ans, Aylan, a été retrouvé sur une plage. Il a un visage, il a un nom. Ce visage et ce prénom, celui d'Aylan, donneront-ils des visages et des noms aux milliers de morts de ces derniers mois, aux dizaines de milliers de morts de ces dernières années? Donneront-ils ce que demandent tous les migrants et migrantes qui ont survécu? Une identité, c'est-à-dire des papiers. Les migrants ne viennent pas en Europe par plaisir ou pour s'enrichir sur notre dos. Ils fuient la guerre et la misère largement provoquées par les politiques des gouvernements occidentaux qui consistent à piller les richesses et à faire la guerre en Afrique et au Moyen-Orient. Alors l'émotion et l'indignation ne suffiront pas, il faut des actes. Il est plus que temps que tous les émus et les indignés descendent dans la rue aux côtés des sans-papiers et des réfugiés pour imposer au gouvernement européen l'ouverture des frontières, la liberté de circulation pour qu'il n'y ait plus d'autres islands, plus de morts au fond de la Méditerranée, dans des camions frigorifiques ou électrocutés dans le tunnel sous la Manche. Il faut également des papiers pour tous les migrants et leur donner les moyens de s'installer et de travailler en Europe s'ils le souhaitent. C'est pourquoi, donc du coup, l'appel rassemblement est posé pour samedi 17h, place Bellecour. On vous donnera les signataires plus tard. Enfin, du coup, ça apparaîtra sur notre site, sur la page. Enfin, du coup, ça va être un peu partout. Parce qu'enfin, ça se bouge un petit peu. Donc, l'appel est assez large. Mais maintenant, il faut se mobiliser réellement. Voilà, sur le track, il est rapidement aussi fait mention des personnes sans papier. Voilà, ils sont vraiment intégrés totalement dans cette lutte-là, parce qu'il ne faut pas les laisser de côté. C'est parce que du coup, là, on parle beaucoup des migrants, des réfugiés. Il y a des gens qui sont déjà là en France, qui luttent depuis des années pour avoir des papiers, ou qui se cachent par peur de se faire embarquer par la police. On reviendra tout à l'heure vite fait. Enfin, on vous fera une petite présentation du collectif des étudiants étrangers de Lyon, parce qu'il y avait un rassemblement à leur initiative, mais pas que cet après-midi devant la préfecture. Et donc il est bien clair qu'il faut lutter du coup pour obtenir 1. La fin de la chasse criminelle aux réfugiés, la régularisation de tous et toutes, des logements décents et pour tous et toutes, ça va être la problématique qui va venir après. Ça veut dire qu'on va accueillir des gens, il faudrait pas que toutes les thunes qui sont normalement utilisées pour le plan froid par exemple, pour héberger le maximum de personnes, bah qu'il n'y ait plus rien en début d'hiver. Il va falloir que ça s'organise vraiment pour que tout le monde...
En sachant en plus que là il y a encore la cartographie, ouais, des logements vides qui permet de savoir dans chaque ville, village, hameau, les logements vides. Donc vous la retrouvez sur internet, je sais qu'elle était sur Rue 89, où voilà, il y a 2,5 millions de logements vides en France et plus de 15 millions dans toute l'Europe. Donc si vous voulez aller sur internet, vous trouverez le nombre exact de logements vides dans chaque ville sur internet.
Et puis vous avez peut-être quelque chose à côté de chez vous, hein, donc
oui, prenez
des choses quoi. Donc voilà, des logements, c'était la suite, hein, la réquisition des logements vides. Ça c'est c'est un truc qui arrivait tous les ans, que ce soit été comme hiver, pour laisser personne dans la rue, mais là ça va encore se poser de manière plus grande forcément. Demander aussi exiger la fin du pillage économique par l'État français des ressources des pays d'Afrique et du Moyen-Orient, et surtout la fin de l'intervention militaire de l'État français en Afrique et au Moyen-Orient, ce qui est très mal parti, parce que vous savez que depuis hier il y a des rafales qui survolent la Syrie et que ça va sûrement partir sur autre chose derrière. Alors, la suite, oui, il y a aussi un appel aux dons qui est lancé sur une plateforme internet, c'est aideauxrefugiés.net.
Aider les réfugiés ?
Aider les réfugiés.
Ouais, c'est pas que les dons. Hein.
Oui, c'est pas que des dons, ouais. Mais du coup,
Il y a une plateforme qui a été lancée là depuis quelques semaines sur c'est aideuxlesrefugiés.com ou .net. Enfin, ça doit être retrouvé facilement sur internet. Et c'est, voilà, vous pouvez vous inscrire. Il y a aussi une carte de la France, on peut zoomer, dézoomer. Et chaque personne peut s'inscrire et mettre ce qu'elle est capable de faire. Alors, ça peut être collecte. De vêtements, ça peut être aide juridique, ça peut être cours de langue, etc., etc. Ça peut être participation aux manifs, et c'est très très pratique. Donc, par exemple, vous zoomez sur Lyon et vous voyez la carte de la ville, et il y a des petits points qui apparaissent, et il y a plein de personnes qui s'inscrivent. Par exemple, voilà, j'ai envie de faire une collecte, j'ai envie d'aller à Calais, qui est motivé, etc., etc. Donc ça, c'est balbutiant, hein. Ça vient d'être créé, mais ça a tout le mérite d'exister. Il y a également aussi les hébergements, voilà. Les formes de solidarité sont très très diverses.
Si vous souhaitez héberger du monde, donc c'est pas illégal, on le répète, hein, parce que du coup il y a des questions qui se posent, mais mince, si j'invite quelqu'un chez moi pour une nuit, deux nuits, voilà, comment ça se passe, est-ce que je peux être condamné, est-ce que je peux être arrêté? Bah pas du tout, hein, c'est vraiment légal, vous pouvez le faire tant que vous ne demandez pas d'argent, bien sûr, en contrepartie, mais ça c'est évident, voilà, enfin j'espère en tout cas. donc il va falloir vraiment quelque chose maintenant qui se passe en France, parce que c'est très frileux. Après il y a les sondages de merde comme d'hab sur les grands médias, hein, voilà, qui balancent des trucs pour bien vous faire comprendre que la France est est contre l'accueil des réfugiés. Maintenant, il faut remontrer dans la rue, il faut qu'il y ait une unité populaire autour de ça. Il faut vraiment que ça bouge, ça commence à qu'il y ait des choses qui émergent, parce que bah forcément dans la presse c'est hyper crade, hein, ce qui se passe aussi. Les positions des partis politiques, on va peut-être pas les, enfin si on en parlait un tout petit peu, hein, les Républicains là, le nouveau UMP, du coup Sarko il a pris la parole l'autre jour, hein, donc lui il veut construire des centres de rétention, donc du coup en Afrique du Nord et aux abords de l'Europe de l'Est, hein, pour filtrer les réfugiés, genre pour trier, toi t'es un bon réfugié, tu peux venir dans mon pays, toi t'es pas un bon, voilà. En gros pour laisser aussi le boulot aux autres pays. Les socialistes, voilà.
Ah, Macron a dit quand même que c'était une opportunité économique. Alors ça annonce beaucoup. Hein. Juste après, ça te fait avoir reçu une standing ovation aux universités d'études MEDEF.
Elle dit que on peut embaucher des gens à moindre coût.
Opportunité économique. Donc
voilà. On a aussi forcément les positions sur la fachosphère. Donc ça, on a l'habitude. On croise des gens dans la rue ou sur les forums, ou sur les pages internet. Hein, qui viennent un peu nous saouler en disant mais il faut d'abord protéger les chrétiens. Moi, j'ai bien accueillir quelqu'un chez moi, mais d'abord un réfugié chrétien. À la rigueur, ils font bien comme ils veulent. Hein, mais déjà qu'ils accueillent du monde, à mon avis, ils le feront pas. Et il est hors de question, de toute manière, de faire du tri entre, toi, est-ce que t'es chrétien, est-ce que t'es musulman, est-ce que t'es athée, est-ce que t'es ci, est-ce que t'es ça. Voilà. Il y a juste des gens, à accueillir, du mieux possible, parce que vu les conditions qui quittent, c'est au moins la moindre des choses. Et la deuxième chose qui revient beaucoup sur la fachosphère, c'est que du coup, on va aider des réfugiés, mais que fait-on pour nos SDF français? Alors, c'est assez rigolo, parce que d'habitude, les gens qui sont un peu en marge de la société, ils sont montrés du doigt par l'extrême droite en disant, ils coûtent cher à la société, ou etc., etc. Et là, du coup, ils servent d'excuse, en disant on va pas s'occuper des étrangers parce qu'on a déjà nos SDF français. On leur dit la même chose, hein, de toute façon la plateforme qui existe là justement pour hébergement et compagnie, ça s'adresse à tout le monde en fait aussi, donc ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui vit dans la rue depuis des années, effectivement, mais il y a pas de souci, hébergez-le chez vous pour quelques jours, faites tourner à d'autres d'autres contacts pour que ce soit fait, mais il y a aucun problème. Et ces excuses de merde sont juste faites pour diviser un petit peu la population de nouveau.
Oui, puis on a aussi une nuée d'islamistes qui va arriver quand on sait le nombre de personnes qui fuient l'État islamique.
Parce que du coup on nous dit aussi les premières victimes de Daesh, de l'État islamique, ce sont les chrétiens. Ce qui est totalement fou. Ils font partie des victimes, effectivement, de ces fascistes religieux. Mais les premières victimes, ce sont d'abord les habitants de là-bas, donc à majorité musulmane dans les pays, et ou alors athées, ou alors d'autres confessions. Ils font pas le tri, hein. Veut dire, ils tuent énormément de musulmans parce qu'ils pensent pas comme eux, quoi. Voilà. Et puis, je vais en profiter pour parler, parce que c'est sur le sujet des gros cons de la semaine. Il y a beaucoup de maires qui balancent des trucs de merde. Donc il y a le maire de Roanne, qui veut bien accueillir des réfugiés mais catholiques, parce qu'il veut pas d'islamistes et de terroristes chez lui. Le maire de Rouen, la même chose, et le maire de Charvieux-Chavagneux, c'est à côté de chez nous, c'est dans le Nord-Isère, je crois. Il se passe des choses des fois un peu néo-nazis là-bas d'ailleurs, des petits concerts dans le coin. Et lui du coup, pareil, hein, il veut accueillir des chrétiens parce que selon lui, les chrétiens ne procèdent pas à la décapitation de leur patron, ne tirent pas à la calage dans les trains, etc., etc. Donc c'est assez haineux, c'est bas du front, hein, c'est les maires d'hiver droite, hein, les nouveaux maires élus suite au municipal, là ils sont assez forts, hein, ils sont costauds quoi. Ils sont costauds, mais au moins, enfin ils disent ce qu'ils pensent, même si c'est crado, parce que du coup nous on en a un de maire là, le père Colomb, là, GG, lui ferme sa gueule, comme d'hab, hein, quand il y a une question un peu sociale et compagnie, lui c'est un des maires socialistes qui s'est toujours pas décidé à accueillir du monde. Il y en a quand même qui font la démarche, qui vont créer des lieux pour accueillir des personnes. Lui, comme d'habitude, il ferme sa gueule. Il est sur son fauteuil là de roi de Lyon. Et à part construire des tours à la Pardieu, il fera des piscines à 8 euros, il fera pas grand chose, de toute façon, à mon avis, pour les réfugiés. À moins qu'il y ait énormément de monde. Samedi à 17h, place Bellecour. On le répète, faut que ça se bouge maintenant, faut montrer qu'on est solidaire, c'est important. Mais même en plus, rien que ce soit les personnes qui font des milliers de kilomètres, qui s'épuisent, qui meurent, qui perdent toutes leurs thunes, qui se font racketter, qui voient quand même que en France et ailleurs en Europe, ça se bouge, hein, ça se bouge déjà en Allemagne, en Autriche, dans d'autres pays, hein, il y a des gens qui sont prêts à accueillir, qui font des trajets en voiture. Enfin, en France pour l'instant ça reste très mou, je le répète. Sur la question aussi des migrants et des migrantes et des réfugiés, on va parler ce week-end, il y a des rencontres internationales au camp No Border. Je te laisse en parler.
Ouais. Alors c'est ce week-end à Vintimille, donc Vintimille c'est à la frontière franco-italienne du côté de Nice, donc tout en bas de la frontière italienne. Donc c'est ce week-end, c'est donc vendredi, samedi, dimanche, le 11, 12 et 13 septembre. Solidarité sans frontières, rencontre internationale contre les frontières, le racisme, l'exploitation et la militarisation. Donc c'est un camp No Border qui est là depuis quelques mois maintenant, j'ai pas la date précise du début mais ça fait quand même un bon petit moment. Avec des migrants, des centaines et des militants, il y a environ 400-500 personnes, ça tourne évidemment très souvent. Donc c'est le point juste avant la frontière, ils ont fermé la frontière, donc l'espace Schengen n'est absolument pas valable à cet endroit-là, ils ont fermé la frontière au niveau de Vintimille, donc il y a beaucoup de manifestations, il y a un réseau de solidarité qui s'est organisé là-bas, ils ont déjà fait des rencontres internationales en juillet, et là c'est à nouveau des nouvelles rencontres et ils appellent évidemment à des semaines de mobilisation à l'échelle européenne en octobre. On a déjà diffusé l'appel qui a été traduit du coup en français, en espagnol et en anglais et en italien évidemment sur internet. Si vous voulez plus d'infos sur pour savoir ce qui se passe dans le camp, les actions qui s'y passent, avoir des infos comment aider, c'est sur un blog et sur un Facebook qui s'appelle Presidio Permanente, donc Presidio Permanente, camp Ventimiglia ou Ventimiglia en français. Et par exemple, à titre d'exemple, si je retrouve ma feuille, il y a un appel évidemment à tout ce qui a besoin en termes de solidarité directe, donc les couvertures, tentes, vaisselle, nourriture, etc., vêtements. Il y a également un numéro IBAN, donc IBAN c'est le numéro RIB international, pour envoyer un don si vous pouvez pas évidemment aller sur place. Donc toutes ces infos, vous pouvez les retrouver, je le répète, sur Presidio Permanente Ventimiglia ou Ventimiglia, sur Facebook ou un blog.
Voilà, on va ouvrir une page de lutte sociale pour prendre les bonnes habitudes aussi,
Oui,
si vous le souhaitez.
Oui. On avait terminé le mois de juin sur des luttes sociales, et on va commencer le mois de juillet sur des luttes sociales. Ce n'est que des suites, en fait, puisque c'était au 2 juillet avec une continuité de la grève chez Centraco. C'est une société qui est sous-traitante de l'entreprise SPI. Et ça se passe dans le Gard avec 97% de grévistes et 7 jours de grève donc au 2 juillet en une mobilisation nationale pour les salaires, les conditions de travail, les contrats précaires, le SMIC et l'exposition aux néfastes nucléaires, donc dans des conditions d'extrême danger. En 2011, un accident sur un four nucléaire avait causé la mort d'un travailleur, et pour toute réponse, la direction a soudoyé des salariés d'autres sites de venir remplacer les travailleurs en grève. C'est pas joli joli, mais c'est ô combien patronal. Il y a aussi il y a eu un joli geste quand même dans toute ce fracas de lutte, un joli geste de solidarité, c'est à Château Arnoux Saint-Auban, c'est dans le 04, le département 04, et ça nous vient de la part des syndiqués de Arkema, de Sanofi, tous syndiqués CGT, et le coup de main est envers les travailleurs de l'ADAPI du coin. Le 1er juillet, donc ils étaient en grève, les travailleurs de la DPI, un coup de main donc bénéfique pour appuyer les revendications qui comportaient donc le respect de la liberté d'expression, le respect du dialogue social, la réintégration d'un salarié sanctionné d'une mise à pied et arrêt de tous les abus autoritaires de la direction du pôle hébergement des Alpes de Haute-Provence. Alors, je rappelle que ADAPI, ça veut dire Association départementale des parents et amis des personnes handicapées mentales.
Il n'y a pas que dans ces Alpes de Haute-Provence qui fonctionnent comme ça, parce qu'à Lyon, ils sont très forts aussi.
On va passer à Niort maintenant, au début juillet, donc bien sûr, avec une grève qui, selon l'intersyndicale, n'est pas habituelle, donc exceptionnelle, dans l'entreprise Darva, qui fait dans l'ingénierie, qui emploie 118 salariés, donc 45 grévistes, qui ont comme bagage bac plus 5. Selon les syndicats, un bac plus 5 ne fait pas grève, ne fait jamais grève. Et pourtant, ce 1er juillet, c'était le cas, et n'en déplaise, évidemment. Pour les reproches, c'est des reproches d'actualité, manque de dialogue social, stratégie opaque de la direction, externalisation d'activités, donc soucis futurs pour l'emploi. Et puis encore un bon côté aussi de la grève, puisque c'est une victoire, et c'est dans le Gard aussi, à Saint-Hilaire de Bettemasse, pour 12 chauffeurs ambulanciers de la société éponyme, donc Saint-Hilaire Ambulance, 12 employés, donc 100% de participation à la grève, et donc gain de cause avec une revalorisation des salaires, un respect du code du travail. Alors là, il va falloir faire fort quand même. C'était au début juillet, on n'en parlait pas encore tout à fait. Donc un respect du code du travail, 4 jours quand même de lutte, avec des piquets de grève quand même. Ensuite, il y a eu en Ardèche également, c'est les salariés d'APF Annonay, Production France. Ils font dans le liner de piscine, avec des conditions de travail dénoncées. La direction abuse de la gentillesse des salariés, voilà. Grève avec 15 personnes pour dénoncer le non-dialogue social. 44 heures la semaine, voire 47h50, sans concertation préalable. À Tours, ben c'est dans la santé, cette fois au CHU, hein, avec des grèves d'urgence, enfin dans le service d'urgence, et fermeture également dans cet établissement, une fermeture de lits. On supprime des lits, on ferme pas les lits, évidemment, on les enlève, quoi. Donc le CHU, c'est le CHU Trousseau, qui se vide par tous ses orifices. Grève sous la houlette de Sud, de la CGT et de FO, ça s'est passé en dermatologie, en réanimation et dans le service des grands brûlés. Il y a eu également une manifestation à Paris des travailleurs sans papier, une cinquantaine de personnes pour obtenir les documents nécessaires pour la régularisation. Les agences intérim sont visées ici et sous la coupe évidemment de Prism Emploi, hein, qui est le syndicat patronal des sociétés d'intérim. On a vu aussi les McDo, hein, qui ont grévé, c'est à Nice, hein, entre autres, conditions de travail, évidemment, sanctions abusives, absence de dialogue social, etc., etc. Il y a une filiale de Vinci aussi, qui s'appelle Escota, qui est à Nice, qui est filiale pour les autoroutes. Alors, plusieurs péages étaient occupés, sans blocage spécifique, mais avec une distribution de tracts. Et puis l'AFP aussi qui l'a eu, sa grève, avec un déni de dialogue social dénoncé par l'intersyndicale et un arrêt de 24 heures donc dans le travail. Le PDG dénonce, il se le permet, l'autru, il se permet donc de dénoncer les accords sociaux en vigueur et au nombre de 117, dont les RTT, et tout doit être remis à plat, qu'il a dit le monsieur, comme son information. Mobilisation dans le 91 également, c'est l'Essonne, hein, du côté de Paris, avec une mobilisation pour 4 lycéens et lycéennes sous le coup d'une OQTF, hein, une obligation à quitter le territoire français, mobilisation de RESF pour ces jeunes âgés de 18 et 19 ans. Il et elle étaient bénéficiaires de la circulaire Valls pour un titre de séjour, mais la circulaire a été oubliée, comme par hasard. Donc les tribunaux administratifs ont décidé de revoir la circulaire, qui est vue comme une simple orientation et non prise en compte par la modification de la loi sur l'immigration du 1er juillet 2015. Je laisse ça aux spécialistes dans le domaine, parce que là, j'y ai perdu un peu mon latin. À Guéret, chez un fabricant de meubles pour les enfants, eh bien, il y a eu une grève de 70 personnes sur 166. Là, ce qui fait problème, ce sont les négociations obligatoires, hein, annuelles obligatoires. Alors, il y a eu également piquet de grève pour obtenir mieux que 1%. Et je ne sais pas ce que ça s'est devenu. Intermarché aussi de Magny-le-Désert. J'ai oublié complètement où se trouvait Magny-le-Désert. C'est une grève pour les indemnités de départ. La direction dit non. La base logistique sera donc inactive et les mousquetaires ont rengainé leur rapière devant le « un pour tous, tous pour un » des grévistes. En fait, il s'agit bien sûr de la fermeture de cette base. Une mobilisation pour également deux étudiants de l'université strasbourgeoise à Strasbourg, donc la préfecture veut virer séance tenante du département du Bas-Rhin parce que sans papier. Leur année universitaire, là, elle a été, elle, validée. La mobilisation vient d'organisations syndicales, d'associations d'étudiants et d'étudiantes. Virgin Mobile aussi, il y en a eu, hein. Je m'excuse, hein, mais si je suis un peu long, vous me le dites. Hein. J'ai pas tout noté en plus. Donc Virgin Mobile, c'est une filiale numéricable, comme chacun sait, avec une grève contre les départs non remplacés, contre les nouvelles orientations, et dénoncer également que 9 hauts dirigeants s'étaient alloués gracieusement 3,36 millions d'euros lors de la session en prime exceptionnelle. Inquiétude également chez les salariés de PSA de Franche-Comté, donc Sochaux et Bellechamp, où il y a eu manif sur manif. Inquiétude due à des externalisations d'activités du groupe Peugeot. Les manifs ont amené une centaine de personnes. Et puis, je vais passer directement, je vais finir avec ça. Total, c'est le site de l'AMED. Hein, on en a parlé assez souvent pendant cette émission durant l'année qui vient, les mois qui viennent de se terminer. Donc, le site de l'AMED avec 41 jours de grève, c'était au 22 juillet. La raffinerie fait l'objet, comme vous le savez, d'un projet de reconversion du site. Et cela, c'était depuis le 11 juin. 178 postes seront supprimés. Les conditions ont été approuvées par un trio, je dirais une troïka syndicale qui comportait la CGC, la CFDT et FO, donc les habituels traîtres.
Les meilleurs.
Hein ?
Les meilleurs.
Les meilleurs. Qui ont accepté donc le volet social des mesures sociales d'accompagnement, sauf que la CGT pense le contraire, la CGT qui n'a pas signé évidemment et qui fait remarquer à ses co-partenaires de négociation que, deux points, ouvrez les guillemets, comment peut-on rejeter en bloc le volet industriel et signer les mesures sociales d'accompagnement? Alors pour la CGT, la raffinerie sous la forme actuelle est viable. Ça a été affirmé d'ailleurs par des experts de la CGT et Total donc doit investir. Alors, je finirai donc par des luttes. Je vais finir par les luttes locales, mais je vais parler celle aussi de Dunkerque. À Dunkerque,
c'est pas local.
Mais je suis un peu mélangé là, mais okay, j'en ai tellement.
Il n'y a pas de souci. C'est bon.
C'est bon.
C'est-à-dire qu'il y a de la lutte, quoi. Reprenons notre.
Donc à Dunkerque, mais en fait c'est à Loun Plage exactement, c'est sur le plus grand chantier, c'est le deuxième paraît-il grand chantier en France pour l'ouverture donc fin 2015 d'un terminal méthanier. Alors il s'y passe de drôles de choses à Dunkerque, un trésor de dumping social, de travail dissimulé impliquant le maître d'œuvre. EDF. Les syndicats sur place dénoncent depuis un an et demi donc la situation. Ce chantier doit redonner de l'oxygène à cette région quasi sinistrée. Le coût du chantier, c'est quand même 1 milliard d'euros, et il y a l'éthique d'entreprise aussi qui en prend un coup. Black Boulet, donc le chantier modèle social, inspection du travail, URSSAF et aussi la police aux frontières qui se sont introduits discrètement et ont auditionné des dizaines de travailleurs. Alors, ils sont roumains, ils sont italiens, ils sont portugais, travaillant pour des sous-traitants. Alors, au bas mot, plus de 600 personnes travailleraient sur ce chantier dans ces conditions-là, selon la CGT et la CGC. Alors, ouvriers exploités, ouvriers esclavagés par une centaine de sociétés depuis l'ouverture du chantier en 2012. Ces entreprises reprends d'une main ce que je te donne de l'autre. Ainsi, le transport, l'hébergement, la nourriture étaient prélevés sur les bulletins de salaire. Et à la fin du compte, plus de salaire du tout pour les travailleurs. Alors, salaire, il faut dire qu'ils sont pas énormes. Ils sont à 300 euros mensuels pour 60 heures de travail hebdomadaire. Et EDF de pratiquer donc le « je ne vois rien, j'entends rien et donc je ne dis rien ». Donc EDF, c'est aussi sur le coup donc LNG, une filiale du groupe, donc EDF, à 65%. C'est aussi Fluxys, qui est un transporteur de gaz, et Total, encore une fois, je dirais que c'est plutôt curieux. Donc des appels d'offres qui ont été remportés aussi par une entreprise d'électricité, 25% moins cher que Vinci, donc ce qui explique évidemment le dumping social, il faut renflouer quand même les caisses, 25% de moins, c'est pas rien, que Vinci ou que la SPI Batignolles, par exemple. Ça aurait pu mettre mettre évidemment la puce à l'oreille, mais voilà, pas du tout. Alors autre aussi, il y a des institutions comme la préfecture, il y a aussi Direct qui se sont cassés le nez, et puis évidemment l'inspection du travail. Pourtant, il y avait de quoi hurler au loup. 4 procès-verbaux transmis au procureur de Dunkerque depuis 2012. Non-respect du repos dominical, infraction en lien avec l'hygiène et la sécurité, accident du travail, dont 2 décès au mois de juin, malaise cardiaque dû à l'épuisement. Alors, une autre personne est décédée, mais alors là, on pourrait dire discrètement, puisque son corps a été rapatrié dans son pays. Les patrons de ce chantier modèle refusaient à cette date de commenter les soupçons sur le travail dissimulé et autres, au titre que l'enquête n'était pas terminée. Alors, selon le site internet du chantier, il y aurait eu 1300 salariés qui auraient été recrutés par Pôle emploi, donc avec des contrats signés, enfin tout net, hein, tout propre, hein, bien, hein, depuis juin 2015. La moitié donc de ces 1300 salariés étaient des chômeurs de longue durée. 95% des embauches concernent des demandeurs de la région Nord, Pas-de-Calais. Et ensuite, je vais passer donc à ces luttes locales avec Renault Trucks, déjà, enfin anciennement Berlier, anciennement RVI, et puis aujourd'hui Renault Trucks, hein, du groupe Volvo. Donc la situation, c'est simple, hein, suppression d'emplois, licenciement. En cette fin août, licenciement sec, ça claque, 200 à 250, c'était prévu en mai, ramené à 35 après négociation. Dans le secteur commercial plutôt, hein, puisqu'il y a 172 emplois qui seront supprimés, puis 480 après négociation. Le secteur informatique se verra donc amputé de 184 postes qui seront externalisés. Des irata de la direction du groupe Volvo qui souhaite remiser, c'est bien le mot, hein, pour les 184 personnes visées chez des prestataires de services. Hein, on se débarrasse, on n'a pas d'indemnité à payer, c'est facile, trop facile. Des rassemblements ont eu lieu aussi le 27 août, 300 personnes, salariés donc de Renault Trucks, pour s'opposer à ce plan social, un énième chez Berlier. Les négociations portent sur les conditions de départ. Alors c'est des départs en pré-retraite, des départs contraints, des départs volontaires, des reclassements en interne, des formations, des départs en formation, des créateurs d'entreprises, enfin des créations d'entreprises aussi pour ceux qui le veulent. Et puis petit point pour terminer, l'établissement Renault Trucks de Roissy serait transféré à Lyon, donc ça ferait 45 encore postes perdus en Seine-et-Marne, mais qui seraient gagnés à Lyon. Et puis pour terminer, alors avec Centro Motor, hein, qui date depuis quand même déjà pas mal de temps maintenant, Centro Motor, ex-CITL, hein, ex-Fagor, ex-SIAPEM, et bientôt rien du tout, puisque dépôt de bilan, dépôt d'arnaque, c'était en avril 2015, licenciement aux frais de la princesse, effectivement, 22 mois de chômage partiel, point de production, point d'investissement, point de formation, passage de pour la formation, c'est dur de passer de la machine à laver au véhicule électrique, alors aux nouvelles techniques aussi, aux nouvelles technologies. Donc en ce mois d'août, la chute de cette débandade patronale d'affairistes, des institutions aussi d'administration judiciaire par exemple, ça sera la chute, l'ALALI, le CHSCT en première ligne, les syndicats ITU qui s'opposent au licenciement, et avec plusieurs questions. Pourquoi Direct prend en charge les allocations chômage à la place de Centro qui devait investir? Pourquoi la production de véhicules électriques est arrêtée alors que la licence de fabrication est maintenue aux frais de l'État, donc nous? Alors pourquoi encore le propriétaire du terrain, le Grand Lyon, le met gratuitement à disposition de Centro? Finalement, les pouvoirs publics, en qui personne ici racine à confiance sont encore une fois interpellés, sollicités. Le 1er septembre, il y a eu manifestation et le 10 septembre, donc demain, ce sera l'avis du tribunal de commerce qui sur les sur les prochains licenciements et les prochains les prochaines destructions d'emplois. Alors, juste un petit mot sur les pouvoirs publics en question qui sont engagés dans cette affaire. Et il y en a une chier, une sacrée équipe. Hein. Il y a l'État, donc, déjà. Il y a Direct, hein, qui est une branche de l'État. Il y a le tribunal de commerce. Il y a le Grand Lyon. Il y a le redressement productif aussi qui a été contacté. Hein. Il y a quelque chose à Lyon qui s'appelle le redressement productif. Et l'administrateur judiciaire et aussi les experts envoyés par le CHSCT. Voilà un peu le point et sur cette
pro. Pour demain, d'ailleurs, ouais, pour information, là, on disait sur qu'il y avait au tribunal demain. Donc, c'est il y a un appel au rassemblement au tribunal pour soutenir les salariés licenciables. Donc, 316 salariés sur 382 sont actuellement au chômage partiel. Donc, rassemblement demain à 10h au tribunal, donc 44 rue de Bonnel, dans le 3e à Lyon. Et si vous êtes d'élèves tôt, la manifestation partira de l'usine à 8h30 pour rejoindre le tribunal, tous et toutes ensemble, à 10h.
Voilà, donc on sait bien qu'il y a du monde pour soutenir tout ça, ça fait trop longtemps que ça dure. Trop d'emplois détruits. Il nous reste encore un petit peu de temps, on va voir si la lumière du frigo arrive ou pas, entre-temps on débordera peut-être un peu. On voulait vous parler du collectif des étudiants, étudiantes étrangers de Lyon, sans papier et solidaire. Il y avait un rassemblement tout à l'heure devant la préfecture qui était appelé par RESF, FSU, CGT Éducation, Sud Éducation Populaire, LDH, Solidaire Étudiants Étudiantes, et donc avec le soutien aussi forcément de ce collectif des étudiants étudiantes étrangers de Lyon, sans papier et solidaire. Et voilà, qui c'est, parce que du coup pour trois jeunes majeurs qui étaient incarcérés en centre de rétention depuis un mois, donc la bonne nouvelle c'est qu'il y en a deux qui ont été libérés, la mauvaise nouvelle c'est qu'il y en a un qui est toujours enfermé, qui a été transféré dans un autre centre de rétention. Il y a eu une première tentative d'expulsion dimanche matin, il a été transféré du coup dans un autre CRA, une autre prison hein, pour personnes sans papier, on le rappelle, c'est pas des centres de rétention, ce sont des véritables prisons. Et donc du coup, on espère que pour cette troisième personne, il semble que c'est Ali, puisse être libéré comme ses deux camarades. Puis on voulait faire une petite présentation du coup de ce collectif. Voilà, je le fais. Ils ont déjà, si vous voulez avoir plus d'enseignements vous-même, parce que je sais pas si on aura le temps de tout faire, il y a une page Facebook, en collectif des étudiants étrangers de Lyon sans papier et solidaire, et un contact mail collectif. Au singulier point étudiant au pluriel point étranger au pluriel point Lyon @riseup.net. Je répète, collectif point étudiant point étranger point Lyon @riseup.net. On mettra les communiqués de son s'il faut sur le blog de l'émission. Je voulais juste la petite présentation de celui-ci. Donc ce collectif s'est recréé, parce qu'il existait avant, mais il est un peu moribond, sur Lyon en 2015. Le collectif regroupe des étrangers, étrangères, avec ou sans papier, étudiants, étudiantes ou se battant pour obtenir une inscription, et des Françaises, Françaises solidaires. Le collectif se propose d'apporter une solidarité concrète aux étudiants, étudiantes étrangers, sans papier ou menacés de le devenir, par le conseil, l'information issue du parcours et de l'expérience de chacun, chacune d'entre nous, et le soutien mutuel dans les différents instants, inscription, préfecture, tribunal, etc. Voilà, ils ont sorti un petit livret numéro 1 bis, enfin du coup il y en a peut-être un avant. C'est le journal du collectif, c'est assez bien. Il y a notamment tout un truc sur la réforme du droit d'asile, sur la nouvelle procédure accélérée, la création des centres d'hébergement directif, la réforme du droit des étrangers. Donc voilà, et les nouveaux moyens que l'État met à sa place pour met à son actif pour la chasse.
Un mail à l'adresse pour connaître la prochaine réunion ou être tenu informé. D'autant plus que le collectif réussit un des paris de l'auto-organisation qui est d'impliquer concrètement les personnes concernées. Le collectif est composé en majorité d'étudiants étrangers avec ou sans papier et de personnes solidaires, mais en tout cas ce pari est à l'heure actuelle réussi.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous balader du coup sur leur page Facebook, envoyer un mail. Je sais qu'il y a plusieurs articles qui ont été publiés sur Rebellion aussi, notamment sur la présentation du collectif et sur le droit d'asile et le droit des étrangers avec la nouvelle réforme. Là. Donc n'hésitez pas aussi à vous informer, à faire tourner le truc hein, pour qu'il y ait plus de monde au courant. Et n'hésitez pas à vous tenir des prochaines mobilisations, voilà, en espérant que la troisième personne qui est toujours en centre de rétention puisse être libéré, voilà, que c'est une véritable prison là-bas, donc puisse être libéré et puisse continuer ses études en France comme il le souhaitait, bien évidemment. Vu qu'il y a encore personne, bon, on va continuer un petit peu à blablater. Hein. C'était aussi pour vous dire qu'il y avait le collectif VISA, donc c'est Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, qui est une association intersyndicale. je vous dis un peu ça, composé d'une cinquantaine de structures syndicales. L'AFSU et plusieurs de ses syndicats, l'Union syndicale solidaire et plusieurs de ses syndicats, des fédérations et des syndicats de la CGT, de la CFDT, de la CNT, de l'UNEF et le syndicat de la magistrature. Alors ils font pas mal de brochures assez intéressantes. Et la dernière qui est sortie, elle s'appelle Lumière sur mairie brune. Ils ont fait tout un travail depuis les dernières municipales. Et ils ont listé tout ce qui se passe dans ces mairies, parce qu'on en parlait un petit peu au début, quand il y avait une mairie qui était tombée aux mains du FN ou du Rassemblement Bleu Marine aux dernières municipales, mais du coup il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Il y a une petite brochure qui existe, si vous êtes notamment syndiqué, il y a peut-être moyen de la commander via votre syndicat, c'est 5€, de 1 à 5 ou de 1 à 10 exemplaires, et après le tarif est dégressif, donc n'hésitez pas à en commander en masse, et ça permet aussi de pouvoir papoter avec vos collègues, ou avec vos potes, avec vos voisins, avec qui vous voulez, sur la situation de ces mairies-là. Donc voilà, et d'ailleurs on va faire un petit zoom sur une des mairies, j'enchaîne, hein. Béziers, on en parle souvent de Béziers, hein, Robert Ménard, un peu, on aime bien Robert Ménard. Hein. Il en fait des belles, hein, et donc, en fait, il aime bien aussi l'Algérie française, enfin, l'ancienne Algérie française, ce bon vieux Ménard. Parce que du coup, le 12 septembre 2015, donc ce samedi, il y a le palais des congrès de Béziers qui accueillera une nouvelle fois, les nostalgiques de l'Algérie française. Donc ce maire-là, hein, qui a passé sa jeunesse en Algérie, continue de réécrire à sa façon l'histoire de cette guerre d'indépendance portée par l'image d'un de ses oncles, mais aussi de son père qu'il imagine en défenseur de l'Algérie française parmi les membres de l'OAS. En juillet 2014, il avait rendu hommage à des partisans fusillés de l'Algérie française devant une stèle installée dans un cimetière de Béziers. En mars 2015, Ménard faisait encore parler de lui en débaptisant la rue du 19 mars 1962, qui est le jour de la signature des accords d'Évian qui marque la fin de la guerre d'Algérie, pour un nom de partisan de l'Algérie française, Élie Denoy de Saint-Marc, qui participa au putsch d'Alger en janvier 61. Voilà. Il s'apprête donc à récidiver ce 12 septembre en accueillant le congrès du comité Veritas à Béziers, une association souhaitant aussi refaire l'histoire de la guerre d'Algérie au-delà de la promulgation de l'indépendance. Donc voilà, Veritas, fondé en 90, compte dans son comité de parrainage Antoine Argou, un ancien dirigeant de l'OAS, qui participa au putsch d'Alger. Voilà, le bureau est constitué principalement de la famille Avelin, dont le père est aussi un ancien de l'OAS, ainsi que Alain Algudo, cofondateur du Recours France et du CDFA, Comité de Défense des Français d'Algérie. Enfin, voilà, que du beau monde. Hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a une mobilisation du coup à Béziers. Il y en avait une quand il y a eu la débaptisation de la rue.
Il y avait 300,
voilà, il y avait un peu de monde. Il y avait aussi beaucoup de monde forcément du côté de des anciens de l'Algérie française, qu'on va dire. Donc voilà, on espère peut-être que ça se bougera. En tout cas, il continue à faire parler de lui. Et un dernier petit truc, puis après quand même on mettra la bande continue, hein, c'est pas grave. Ouais, on peut continuer encore. Bon, on continue. Bon, j'ai un petit truc du coup parce que sur la souris déglinguée, parce que du coup, hein, depuis des années, hein, avec des poteaux ou pas des poteaux, voilà, qui a écouté LSD, on leur disait mais quand même LSD, quand même voilà, c'est un peu louche quoi. Il y a un peu de tout dans leur concert quoi. Il y a les antifascistes, tout ça, il y a des gens de gauche, mais aussi beaucoup de faf quand même. Et ben du coup, c'est officiel. La souris déglinguée, en tout cas pour ceux qui pensaient encore un petit peu de gauche, hein, est morte le 31 juillet 2015, il y a pas si longtemps, dans les arènes de Fréjus, sous le poids de ses compromissions, en jouant dans un concert organisé par une mairie frontiste. Et en partageant la scène avec un groupe militant d'extrême droite. Je refais un petit peu le béaba sur la souris déglinguée. Donc c'est un groupe de rock haï ou adulé, souvent qualifié d'ambigu, né à la fin des années 70, qui chantait la banlieue, la zone, les erreurs de jeunesse, les soirées, aérées dans les rues d'une ville, quand on a raté le dernier train, etc., etc. Et les est également ce groupe qui vantait les charmes de l'Orient et qui avait donné l'occasion à NTM de faire sa première scène. Tout au long de sa carrière, le groupe a toujours eu un public très chaud et hétérogène, comme en témoignent ses supporters de la première heure, les premières bandes parisiennes, dont celle des Halles. LSD, donc la souris déglinguée, n'avait jamais voulu prendre parti pour l'une des tribus urbaines du rock. De même, le groupe avait toujours refusé de juger et prendre parti au sujet d'une partie de son public dont les opinions d'extrême droite étaient clairement affichées, ce qui faisait des concerts de la souris des expériences assez uniques, hein, et mouvementées, avec embrouille au début, pendant et après le concert. Voilà, comme le chantait le groupe, hein, peu importe leurs idées, puisqu'il y a de l'amitié. Oui, mais quand même. Seulement voilà, ce positionnement étonnant s'est effondré comme un château de cartes ce vendredi 31 juillet 2015 à Fréjus. Certains penseront qu'il s'agit d'une erreur, que nous voyons le mal partout. C'est un article du coup qui est issu de la Horde, du site La Horde. Il faut donc tout reprendre depuis le début. Donc le conseil était bien l'initiative de la patrouille de l'événement, une asso en lien direct avec la mairie frontiste de Fréjus, association dirigée par Minh Tran Long, ancien mercenaire d'extrême droite, connu pour avoir été militant chez les néo-nazis, de la FAN et proche du GUD. Bref, la billetterie était confiée à la société Dreamwell, appartenant au clan Châtillon. Ça le rappellera quelqu'un qui, comme on a pu le voir sur son compte Facebook, s'en félicitait. On notera que malgré les déclarations de Marine Le Pen et les emmerdes que ça lui rapporte, parce qu'il est très proche du FN, ce monsieur, le FN continue de faire des affaires avec le clan des ex-GUD, et en cela, la ville de Fréjus et son maire David Rachidine en sont le meilleur exemple. Oui, je parle très vite parce que je pense qu'on est en retard. Rachidine, je sais plus. enfin voilà, une bonne tête de con quoi. Voilà, bien évidemment le concert était relayé par les médias frontistes comme le site Culture Liberté Création appartenant au rassemblement Bleu Marine. Donc voilà, je vous lis pas la fin de l'article, mais du coup voilà, ils décrivent un peu les gens qui étaient un peu dans ce truc là. Donc la souris déglinguée, bah les copains, les copines, c'est fini, maintenant on arrête d'en parler, on arrête d'aller à leur concert, puis on jette tous ces CD quoi, c'est pas grave. Ça arrive, il y a plein de groupes comme ça qui retournent leur veste. On va pas en faire un drame. Monsieur, vous
ouais,
nous faites une petite incursion en Inde, c'est ça?
Allez, on va en Inde. Il y avait une grève le mercredi 2 septembre, donc il y a 7 jours pile. Et il y avait 150 millions de salariés en grève, rien que ça. 150 millions, ouais, c'est...
On est petit, il y a quoi?
Ouais, 150 millions de salariés en grève le mercredi 2 septembre, il y a 7 jours, pour dire non à la réforme du droit du travail annoncée par le gouvernement Modi. Bon, il s'appelle vraiment Modi, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a que le syndicat, je vous prononcerai pas le nom très long, proche du parti au pouvoir, et le National Front of Indian Trade Unions, qui n'a pas pris part à la grève. Alors le syndicat indien du Front National, donc il n'y était pas là. Et les secteurs étaient les plus touchés, étaient l'énergie, le transport, la logistique, la banque. Et le MEDEF indien a pleuré toutes ses larmes parce que malheureusement, ce jour de grève a fait perdre 3,3 milliards d'euros à l'Inde. Donc bon, bien fait pour leur gueule. Et puis voilà, 150 millions de grévistes en Inde mercredi dernier pour dénoncer la réforme du droit du travail.
Voilà, bah, je vais finir par un petit truc, vu qu'on a le temps.
Et aussi, aussi au passage, là, il y a les tables de la CGA qui continuent à la fac. Donc à Bron,
c'est méli-mélo ce soir.
À Lyon. Ah, on passe de l'Inde à Bron. Là, c'est on passe au Bronistan.
Il n'y a qu'un pas.
Et donc ouais, il y a les tables de la CGA, les tables d'info et de livres de la coordination des groupes anarchistes de Lyon à la fac de Bron. Et il y a 15 à 20 personnes qui sont motivées chaque jour et qui nous donnent leur mail. Et il y aura bientôt une réunion pour faire rencontrer tous ces gens super chauds.
C'est au forum.
Eh oui, et la prochaine table, c'est vendredi au forum à Bron. Voilà. Venez nous voir de 10h à 16h, tchatcher.
Je finis par un petit truc international, c'est assez court, c'est un appel qui a émergé via le Conseil démocratique kurde de France. Voilà, c'est signé l'appel des femmes kurdes pour condamner les crimes commis au Kurdistan par l'État turc. Je vous lis vite fait ce truc-là, c'est un peu froid dans le dos, mais du coup, on parle souvent quand même de ce qui se passe par là-bas, mais là, c'est assez dur. Madame, monsieur, nous vous invitons donc à signer l'appel ci-dessous, lancé par plusieurs organisations de femmes kurdes, afin de condamner les crimes commis par le gouvernement turc de l'AKP au Kurdistan, notamment suite à la mutilation du corps d'une combattante kurde par les forces de sécurité turques. Donc le texte s'appelle « La mentalité patriarcale de la complicité AKP-Daesh ». AKP, c'est le parti d'Erdogan, le président turc, et la figure la plus atroce du féminicide. Nous, sous-signés, condamnons fermement l'exécution de Kezver El-Turk, combattante kurde, tuée par la torture par les soldats turcs et exposée nue au public de façon inhumaine en plein cœur, en plein centre de la ville de Varto au Kurdistan turc. La honte et le déshonneur de cet événement s'écrira dans l'histoire. Au nom du règne de son sultanat, la mentalité de l'AKP envoie l'humanité sur la route de la mort, faisant perdurer la guerre sale. Son seul but, affaiblir la résistance des femmes kurdes. Kezver El-Turk est le symbole de la résistance des femmes kurdes. Nous demandons justice face à cet acte horrible. Durant toutes les guerres qu'a connues l'histoire de notre monde, les femmes ont toujours été utilisées comme des butins de guerre. Aujourd'hui en Irak, elles continuent d'être vendues dans les bazars de l'esclavagisme sexuel. Les images des femmes kurdes traînées à terre par les tanks de l'armée turque, les corps exposés nus dans les médias étatiques sont encore dans l'histoire actuelle. La mentalité conservatrice patriarcale n'arrive pas à digérer l'idéologie de la libération des femmes, qui est aujourd'hui un hommage aux valeurs de l'humanité. Ces atrocités infligées à Kezver El-Turk sont la représentation de la mentalité masculine des années 90 qui se reproduit à ce jour. Le vide éthique et le déshonneur se concrétisent par la complicité de Daesh et de l'AKP. Cette mentalité du viol qui produit la pratique avérée du féminicide sur la personne d'Ekin est l'enclenchement d'une guerre indéfinie à l'égard du droit de légitime défense des femmes kurdes qui sont aujourd'hui devenues l'espoir des femmes de la planète. Nous soutenons et nous joignons la déclaration du Congrès des femmes libres et dénonçons cette politique inconsciente et inhumaine perpétrée par la police de l'AKP envers les femmes. Par conséquent, nous allons vaincre la mentalité de l'AKP, tout comme les combattantes des YPG ont renversé le sultanat de Daesh. Donc voilà, il y a tout un texte à signer. On a aussi un petit bouquin à la plume qui s'appelle « Pour en finir avec le féminicide » qu'une copaine kurde avait ramené à la plume noire. N'hésitez pas à passer aussi pour le regarder. peut-être même pour l'acheter. Donc voilà, on va finir là pour aujourd'hui. On a débordé, mais tant mieux, ça fait du bien, pourquoi pas de temps en temps. Hein. Donc on vous rappelle les rendez-vous vendredi, qui arrive le vendredi 11 à Vaux-en-Velin, à la salle Sergi Chaplin. Deuxième édition des 40 guitares pour Victor Hara, avec une table de presse de la Plume Noire, la chorale des Sans-Papiers notamment, mais il y a plein d'artistes qui seront là. Donc voilà, samedi à 17h, place Bellecour, rassemblement solidarité de tous les migrants, immigrantes et réfugiés.
Demain, jeudi 10h, rendez-vous de solidarité avec les salariés licenciables de Centrobotor, donc à 10h au tribunal rue de Bonnel, ou à 8h30 devant l'usine pour la manifestation qui ira au tribunal. Et si les infos sont sur Rebellion.
Voilà. Et si vous voulez rencontrer des militants et militantes de la CGA, à part les permes, donc il y a ce table de presse au forum à la fac de Bron ce vendredi.
Vendredi, voilà, 10h, 16h.
Voilà. N'hésitez pas à passer. On a aussi un journal que vous pouvez traîner, un tout nouveau journal que vous pouvez retrouver sur Internet, sur le site fédéral de la CGA, cga.org, qui s'appelle Résistance Libertaire. Le numéro 1 est sorti mi-juillet, c'est un double numéro juillet-août. Le prochain numéro sortira dans les
22 septembre.
Le 22 septembre, ouais, dans une ou deux semaines. C'est un format numérique, mais nous on en tirera un format papier, voilà, pour que vous le distribuez, puis que vous puissiez éventuellement l'acheter et le lire, en tout cas de manière réelle, on va dire. N'hésitez pas à y faire un tour, parce qu'il y a forcément des articles vachement intéressants. Sur le numéro de juillet, il y a un article notamment sur la situation au Mexique, la situation en Grèce, une introduction à l'anarcha-féminisme, et après les communiqués un peu fédéraux ou des groupes de la CGA. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. On en a encore quelques exemplaires à la Plume, mais plus, bientôt plus. Et entre-temps, le prochain numéro, donc ce sera le 22 septembre.
Facebook CGA Lyon, Twitter CGA Lyon 1. Voilà,
si vous voulez nous retrouver. Bah voilà, 21h10, on a débordé.
Juste rappeler aussi le repas de, évidemment.
Ah, bien sûr, oui.
Tiens bon la pente, hein.
11h30, 16h.
Ce samedi 12 septembre de 11h30 à 16h.
Faut amener du miam miam et du bois et du bois.
Voilà, et puis on, des choses à échanger, des vêtements, voilà. Enfin bon, bref, tout un tas de trucs. Et puis ensuite, il y a le cinéma en plein air qui sera présenté. Esplanade de la montée de la Grande Côte à Lyon, dans le premier arrondissement. Je sais même pas si j'ai filé l'heure. Oui, 20h30, voilà.
Donc 21h, je t'avais corrigé tout à l'heure, tu n'as pas.
Ah oui, 21h,
Non, ça a été mis à jour aujourd'hui.
Je ne suis pas attentif, c'est tout. Il faudra que je sois attentif la prochaine fois. Voilà. Donc, la projo sera suivie d'une discussion avec Béatrice Dubel. Le film, c'est Cette guerre et nous. Donc, c'est sur l'Algérie, hein, la guerre de l'Algérie.
Mais évidemment, c'est pas façon Ménard, à mon avis.
Comment ?
À mon avis, c'est pas façon Ménard de Béziers.
Non, mais il sera même pas là, hein, je crois.
Non, mais il sera pas là.
Mais
c'est
pas... Voilà, et on vous dit, nous, la semaine prochaine, évidemment, mercredi, toujours à la même heure, 20h, 21h. Salut.
Bonne soirée.
Nella tormenta partita l'ombra.